La tradition, on veut être transformé par la puissance de Dieu. Donc, tout le monde dit, voici ma Bible. C'est la parole vivante de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai, je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je fais ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Et si vous avez une Bible avec vous, j'aimerais vous diriger vers Actes chapitre 13. Et on va juste lire, pour commencer, le texte qu'on a utilisé la semaine passée. On a commencé une série la semaine passée sur comment saisir votre destinée. Et qu'est-ce que nous avons découvert? C'est que Dieu a un plan pour votre vie, il a un plan pour le monde entier, il a un plan pour cette église locale, il a un plan pour votre famille, pour votre travail. Dieu a un plan. Regardez quelqu'un et dites, Dieu a un plan. Amen. Vous avez une destinée. Vous n'êtes pas ici par hasard. Comme j'ai dit la semaine passée, même si maman et papa vous ont dit que vous étiez en accident, vous n'êtes pas en accident pour Dieu. Amen. Vous êtes ici selon le plan et le dessein de Dieu. Et vous avez une destinée à saisir. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas saisir leur destinée. Et même si Dieu a voulu qu'ils fassent de grandes choses, par exemple, laissez-moi vous donner le meilleur exemple que je peux considérer, c'est que le plan de Dieu et la destinée de Dieu pour chaque homme et chaque femme sur la planète, c'est d'accepter la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ est de recevoir le don gratuit de la vie éternelle. La Bible est claire que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que chaque personne se répande. Il veut que tout le monde vienne à la repentance. Il veut que tout le monde reçoive la vie éternelle. N'est-ce pas vrai? Mais on sait malheureusement, parce qu'il y a des personnes qui sont aveuglées par les mensonges du diable, il y a des personnes qui vont rejeter Jésus. Il y a des personnes qui vont dire que je ne crois pas que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Je crois que c'est juste un bon personnage dans l'histoire. Il était vraiment une personne gentille. Il a fait des grandes choses. Il a enseigné des bonnes choses. Mais il ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Mais vois-tu, même si Dieu veut, même si le plan de Dieu, la volonté de Dieu et le dessein de Dieu, c'est que tous les hommes, toutes les femmes du monde viennent à Jésus-Christ et qu'ils reçoivent la vie éternelle, tout le monde ne va pas le faire. Vous êtes d'accord? Et c'est pourquoi c'est la même chose, même après avoir donné sa vie à Jésus, il y a un plan. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement. Si quelqu'un ne reçoit Jésus, la Bible dit qu'il est né de nouveau. Il est né en bébé, il est né en nourrisson. Il a besoin de grandir, il a besoin de croître. Il a besoin de découvrir le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour sa vie et de saisir sa destinée. Amen. Et on voit cela avec les personnes comme le roi David dans l'Ancien Testament. Dieu a dit en Actes chapitre 13, verset 21, que j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David était appelé un homme selon le cœur de Dieu parce que Dieu savait que David allait faire toute la volonté de Dieu. Tout le monde dit toute la volonté de Dieu. Amen. Combien de vous, vous voulez être un homme ou une femme après selon le cœur de Dieu? Pour être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, il faut faire toute la volonté de Dieu. Il faut saisir votre destinée, il faut suivre son plan. Et on voit vraiment la culmination et la fruition de la vie de David en verset 36 de Actes 13 qui dit « Pourtant David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, » tout le monde dit « en son temps hein, », une version dit « dans sa génération ». Après avoir servi le plan de Dieu, après avoir servi le dessein de Dieu dans sa génération, la Bible dit, il est mort et fut enterré aux côtés de ses anges. Il a donc bel et bien subi la décomposition. Ça, c'est vraiment, on sait que tout le monde est en vie aujourd'hui. Tout le monde qui est là est en vie, oui? Hein, tant mieux. S'il y a quelqu'un qui n'est pas en vie, laisse-moi savoir. Non, mais tout le monde ici est en vie. Et on est content d'être en vie, mais on sait que la vie ici sur la terre est courte. La Bible dit que notre vie est comme une vapeur qui va apparaître pour un instant et qui va bientôt disparaître. Notre vie est courte. comparé à l'éternité, même si vous vivez, je pense que la personne la plus âgée aux États-Unis vient de mourir hier, ou en fin de semaine, et la personne avait 114 ans. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Mais ils ont dit que c'était une personne, juste en passant, c'était une personne très croyante, qui avait une foi vraiment sincère. Elle était zélée pour les choses de l'Esprit. Elle partageait toujours sa foi avec tout le monde. Laisse-moi vous dire, le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour vous et pour moi, c'est de vivre une vie longue et heureuse ici sur la terre. Amen? C'est pas le plan de Dieu que tu meurs avant d'avoir terminé son plan pour ta vie. Donc, Dieu veut que vous viviez longtemps sur la terre, mais même si vous vivez 120 ans, ce n'est pas long comparé à l'éternité. Vous êtes d'accord? 120 ans comparé à des milliards multipliés par les milliards d'années, c'est rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette courte période de temps ici sur la terre va déterminer comment nous allons vivre au ciel. Amen? Il faut saisir notre destinée. En plus, ça va déterminer comment les autres vont vivre. Ça va peut-être être la différence entre la vie et la mort pour notre entourage. Si je saisis ma destinée et si je fais la volonté pour ma vie, ça va toucher la vie de quelqu'un dans mon entourage. Amen? On a eu des bons exemples ce matin. Mais ce n'est pas une chose automatique. Il faut prendre une décision de saisir sa destinée. Et on a vu que dans le Nouveau Testament, on a l'exemple de l'apôtre Paul qui a dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Paul, c'était un autre exemple d'un homme qui a fini et qui a saisi sa destinée. Amen. On a vu en 2 Timothée 3, chapitre 2, versets 3 à 7, Paul a dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Tout le monde dit « bon soldat » de Jésus-Christ. « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et l'athlète, tout le monde dit « l'athlète » n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Tout le monde dit « le laboureur ». Donc, on voit ici l'exemple d'un soldat, d'un athlète et d'un fermier ou un laboureur. Et si on va saisir notre destinée, il faut comprendre comment développer les caractéristiques de ces trois genres de personnes. On a vu la semaine passée comment être un bon soldat de Jésus-Christ. On a vu que si on veut être un bon soldat, il faut développer le caractère d'un soldat et le courage d'un soldat. Il faut avoir la vaillance, la fidélité et le sacrifice. Tout le monde dit la vaillance, la fidélité, le sacrifice. Pour être un bon soldat, il faut avoir ces qualités. Et en faisant ça, on va saisir notre destinée, on va finir qu'est-ce que Dieu a commencé dans notre vie et on va avoir un bon impact sur notre entourage. Deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, on va regarder le côté d'un bon athlète. Quelqu'un qui est vraiment persévérant, quelqu'un qui est bien discipliné, quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça prend pour gagner. Combien de vous savez que si vous allez gagner, même dans le naturel, au sport, que ça prend une certaine discipline? Vous êtes d'accord? Hein, je parlais avec Jean-François tantôt, il joue au basket. Et lui, il a dit qu'ils vont pratiquer au moins deux fois par semaine. Au moins deux fois par semaine, un minimum de 4 à 6 heures. J'ai dit, est-ce que ça peut être moins? Il a dit, c'est jamais moins, mais c'est souvent plus. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire pour gagner le match? Qu'est-ce qu'il va faire pour que l'équipe gagne? Il va se discipliner, il va s'entraîner, il va se préparer pour la victoire. Amen? Je pense, Guy Lemond n'est pas ici peut-être aujourd'hui, mais c'était un joueur de hockey, je connais un peu son histoire, et il m'a déjà dit dans le passé combien il s'entraînait pour se préparer pour jouer comme gardien de but au hockey. Ça prenait du temps, ça prenait de discipline, il fallait préparer pour gagner. Amen? Donc, même, c'est ça qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui. Même si vous êtes destiné à gagner, il y a quand même une préparation. Il y a quand même une partie que vous avez besoin de jouer, un rôle que vous avez à jouer dans cette histoire. Combien de vous voulez gagner dans la vie? Vous voulez gagner dans votre vie de couple, vous voulez gagner au travail, vous voulez gagner dans votre vie chrétienne, vous voulez remporter le prix, vraiment être un vainqueur dans tous les domaines de votre vie. Sachez ceci, c'est que ce n'est pas une chose qui va arriver par hasard. Pour gagner, pour saisir la destinée, il faut être un bon soldat et il faut être un bon athlète. Amen? Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et en préparant ce message, je priais, je méditais et je ressentais dans mon cœur que le Seigneur m'a dirigé à faire un petit de recherche. Et je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment amateur du vélo, les choses de même. Mais quand je préparais ce message, je ressentais dans mon cœur que le Seigneur voulait que je regarde les choses concernant le Tour de France. Est-ce que vous, combien de vous avez entendu parler du Tour de France? Hein, c'est une course de vélo qui est vraiment extravagant, on dirait. Hein, c'est quelque chose qui dure 22 jours de fils. Quelque chose, hein, 22 jours, dans 20 parties, les concurrents vont être obligés de traverser les villes, les vallées, les montagnes, incluant les Alpes. Je ne sais pas combien de vous avez vu les Alpes, mais laisse-moi vous dire une chose. Tania et moi, on a vécu dans le sud de la France pendant quelques années, et les Alpes étaient juste en arrière de Nice, et même mon auto avait de la difficulté des fois à monter les Alpes. Hein? Il y a le grand corniche juste en arrière de Nice même. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Le moteur de mon Renault, souvent, grenier. Il faut monter. Là, je pense à ça et je pense à ces hommes qui vont prendre un vélo et qui vont pédaler pour monter et descendre les Alpes. Je dis, waouh, c'est quelque chose. Moi, je ne serais pas capable de le faire aujourd'hui. Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Peut-être oui. Mais même si j'ai la capacité, ma capacité n'est pas développée. Amen? Il faudrait, si je veux faire du vélo dans les montagnes, dans les Alpes, ça prendrait absolument un entraînement. Et je regardais, et combien de vous savez qui c'est Lance Armstrong? Vous avez entendu parler de lui? Il y a des personnes? Ça, c'est celui, c'est le gars qui a gagné le Tour de France cette année, mais aussi il a gagné le Tour de France l'année passée. L'année avant ça, il a gagné. Et l'année avant ça, il a gagné 4 années de fil. Le même gars a gagné le Tour de France. En fait, il commence à appeler le Tour de France le Tour de Lance. Parce qu'il est tellement bon, il est tellement, on dirait, consacré à son sport. Et c'est quelque chose. Mais j'avais vraiment à cœur de regarder ça. Et je regardais les choses sur l'Internet concernant le Tour de France et le Tour de Lance. Et j'ai découvert que ce monsieur Lance Armstrong, qui vient de Austin au Texas, lui, il a même écrit un livre dernièrement qui parle de son système d'entraînement. Ça parle de qu'est-ce que ça prend pour être un vainqueur. Et je regardais ça et je me suis dit, tu sais, tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il a besoin de faire dans le naturel, ça correspond vraiment avec qu'est-ce que nous avons besoin de faire dans le spirituel si nous allons gagner. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est ça que je vais vous donner. Juste vite ce matin, je vais vous donner 7 choses qu'on a vues. Je n'ai pas lu le livre, mais il y avait comme un aperçu du livre et le table de matière, etc. J'ai lu ça, j'ai lu plusieurs choses qui décrivaient son système d'entraînement. Et je dis, ça a bien de bon sens. Et je me suis dit, si Paul a dit, et souvent Paul a fait une comparaison avec les athlètes de la Grèce, n'est-ce pas? On voit en 1 Corinthiens chapitre 9, on voit en Hébreux chapitre 12, on voit dans plusieurs places dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul s'est comparé avec un athlète, quelqu'un qui était vraiment entraîné et formé pour une compétition. Mais la première chose que je vois, que si vous et moi, nous allons gagner dans la vie, encore, combien de vous voulez gagner? Vous voulez être un champion, une championne pour le Seigneur. Pas un champignon, mais un champion. Si vous voulez gagner dans la vie, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre une décision, on peut même dire une résolution de gagner. On dit, mais ça c'est facile, mais ce n'est pas si facile. Il faut, avant de commencer, il faut déjà avoir dans votre tête, dans votre pensée, dans votre cœur, que je suis champion, je vais gagner. Amen? C'est comme l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais le lire dans la Bible français courant. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Combinez-vous, vous allez courir de manière à remporter le prix. C'est-à-dire que si Paul a dit qu'il faut prendre une décision de courir d'une manière de remporter le prix, c'est qu'il y a une autre manière par laquelle on va perdre le prix, n'est-ce pas? Si on court d'une façon, on va gagner. Si on court d'une autre façon, on va perdre. Mais je ne suis pas un perdant dans la vie, vous n'êtes pas des perdants, vous êtes des champions dans le Seigneur. Amen? Il y a 2-3 champions ici ce matin. Hein? Combien de vous voulez être les champions? Prenez une décision, parce que la bonne nouvelle que nous voyons dans la Bible, c'est que si vous voulez gagner, vous pouvez gagner. Je vais le dire encore. Si vous voulez gagner, vous pouvez gagner. Pourquoi est-ce que je le sais? Parce que Philippiens chapitre 2, verset 11 dit que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le pouvoir selon son bon plaisir. Si tu as le moindre désir de faire la volonté de Dieu, ce n'est pas un désir naturel, c'est un désir surnaturel. Ce n'est pas normal de vouloir servir Dieu. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui est normal et naturel, c'est de vouloir pécher. N'est-ce pas vrai? La nature humaine veut pécher. Mais si vous avez le désir de vivre pour Dieu, de faire sa volonté, ça prouve que Dieu est à l'œuvre dans votre vie et ça vous donne la preuve aussi que Dieu vous donne la capacité. Parce que Dieu vous donne le vouloir et le pouvoir. Amen. Tout le monde dit, si je veux, je peux. Dis ça encore. Si je veux, je peux. Est-ce que vous voulez? Vous voulez avoir un bon mariage? Vous pouvez. Vous voulez avoir un emploi avec du succès, un bon salaire? Vous pouvez. Amen. Alléluia. Aussi longtemps que vos désirs sont en ligne avec la volonté de Dieu, vous pouvez. Alors donc, il a dit, courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours, les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas aux hasards. Hein? Il ne frappe pas les ombres, une traduction dit. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc, première chose, prendre une décision à gagner. Et juste un étudiant et en voyant les choses concernant Lance Armstrong, celui qui a gagné 4 années de fil, le Tour de France, j'ai vu que c'était un gars qui a pris une résolution. Je vais gagner le Tour de France. Il a essayé en 1993 et il n'a même pas fini la course. Et ça devrait vous encourager parce qu'il y a plusieurs de vous, vous avez essayé, vous avez bon parti, vous avez eu vraiment un bon départ il y a quelques années et peut-être vous avez lâché. Est-ce que ça veut dire que vous êtes vraiment fini maintenant? Non! Vous avez encore de l'espoir, vous pouvez toujours vous entraîner et vous pouvez encore gagner. Amen! Peu importe qu'est-ce qui s'est passé. Lance a commencé en 1993, il n'a même pas fini la course. Il a été rendu à 86e rang et puis enfin il a dit, je lâche, il ne pouvait plus continuer. Il a continué à s'entraîner et se préparer parce qu'il s'est dit à lui-même, je vais gagner. Il a pris une résolution de gagner. Et qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en 1996, Lance Armstrong a commencé à avoir des problèmes, des symptômes dans son corps et les médecins ont découvert qu'il avait le cancer, et pas à peu près, il avait le cancer partout dans son corps. Il avait les tumeurs dans son cerveau, dans ses poumons, à plusieurs endroits dans son corps et les médecins ont dit « tu n'as que 50% de chance de vivre, pas gagner le Tour de France, mais juste pour vivre ». Mais une chose d'intéressant, et selon ma connaissance, ce gars n'est même pas chrétien, mais il a pris une décision, il a dit, je ne serai jamais victime du cancer, je vais être un vainqueur du cancer. Il a pris la résolution. Et même avant qu'il soit guéri de son cancer, il a commencé une fondation pour aider les autres à vaincre le cancer. Il a dit, moi, je vais être un survivant et je commence aujourd'hui, je ouvre une fondation pour aider les autres qui ont et qui vont survivre le cancer. Laisse-moi vous dire, si une personne qui, selon ma connaissance, peut-être il est chrétien, je ne sais pas, selon ma connaissance, il ne connaît pas le Seigneur, si une personne, juste dans la naturel, est capable de dire, non, je prends la résolution, je prends la décision, je vais gagner. À combien plus fort raison devrions-nous, les enfants de Dieu qui ont la promesse de la victoire, devrions-nous dire, je vais gagner, je serai vainqueur, je ne vais jamais perdre. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia! Donc, il a pris la résolution, mais là, vois-tu, c'est pas assez juste de dire, OK, je vais gagner. Il fallait qu'il agisse. Il fallait qu'il fasse des choses. Et là, il a commencé à changer sa façon de vivre. C'est sûr qu'il est allé voir les médecins, il y avait quelques chirurgies, etc., mais il a changé son style de vie, il a changé la méthode d'entraînement, et je vais vous donner plusieurs exemples. Amen! Et là, dans son livre, de selon qu'est-ce que j'ai écrit, j'ai lu, il va expliquer plusieurs choses que vous devriez faire, qu'une personne qui veut gagner à la course du vélo, voici les genres de choses qu'il doit faire. Et moi, je dirais qu'on devrait faire l'application spirituelle pour, si on va gagner, être les champions dans la vie spirituelle. Hein? Numéro 2, si vous voulez gagner dans la vie, il faut exercer plus de puissance avec moins de travail, avec un cœur qui est en santé. Tout le monde dit un cœur qui est en santé. Un des secrets de Lance Armstrong, c'est qu'il a dit, je vais travailler pour que mon cœur soit tellement fort. Le gars est capable de vraiment ajuster le battement de son cœur à volonté. Hein, à certains temps, quand il pédale, il dit, là, je vais ralentir mon cœur maintenant. Il est vraiment au diapason. Il a un truc pour, comme un genre de moniteur, il sait exactement c'est quoi le rythme de son cœur, mais il est capable, à volonté, comme un bon athlète, de dire, bon, j'augmente ou je diminue. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Mais c'est quoi la corrélation? C'est quoi la comparaison qu'on pourrait faire dans la vie chrétienne? Vous savez, la parole de Dieu dit qu'il faut garder votre cœur plus que toute autre chose. Là, Lance, il parle d'un cœur naturel, je parle d'un cœur spirituel, ton âme, ton être intérieur. Si vous voulez gagner dans la vie, parce que lui, il a dit qu'une personne dont le cœur n'est pas vraiment en forme, au moment donné, il a besoin de travailler plus fort pour avoir plus de puissance. Mais quelqu'un qui a le cœur en forme, il est capable de garder en cadence qui est plus rythmée. Amen. Et dans le fond, il travaille moins, mais il a plus de résultats. Et c'est la même chose, un chrétien dont le cœur n'est pas en santé. Quelqu'un qui, un jour, il est vraiment ici avec le Seigneur, mais le lendemain, il est comme éloigné de Dieu, il laisse entrer dans son cœur les choses négatives, l'influence du péché, etc. Cette personne, il va souvent être obligé de comme courir dans sa vie chrétienne pour rattraper qu'est-ce qu'il a perdu. Vous comprenez qu'est-ce que je dis? Mais quelqu'un qui garde son cœur, qui dit, là, je vais garder mon cœur droit devant le Seigneur. Je protège mon cœur. Je fais attention à ce que je regarde. Je fais attention à ce que j'écoute. Je reste en communion avec Dieu. Mon cœur est droit devant le Seigneur. Peu importe ce que le Seigneur me demande de faire, je le fais tout de suite. Et un chrétien qui a un cœur qui est en forme et en santé spirituellement est un chrétien qui va avoir beaucoup plus de puissance et qui va être capable d'aller beaucoup plus loin. Amen? Donc, gardez votre cœur. Faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez, à ce que vous dites. Et soyez obéissant à chaque fois que le Saint-Esprit vous demande de faire quelque chose. Amen. J'aime le psaume 141:4 qui dit « N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je prenne aucune part à leur festin. » Votre cœur appartient à Dieu. Amen. Regarde quelqu'un et dit « Mon cœur appartient à Dieu. » Prochaine chose que Lance Armstrong dit, que si vous voulez avoir du succès en tant qu'athlète, et surtout en ce qui concerne le vélo, c'est qu'il faut atteindre et maintenir votre poids idéal. Amen? Et là, on ne parle pas de votre poids naturel. Et ça, c'est une chose aussi, on a besoin de faire attention dans le naturel. Mais on parle l'exemple spirituel. On prend les choses dans le naturel, et on sait qu'une personne qui a trop de poids, qui est trop lourde, naturellement, physiquement, son cœur est trop lourd, ou peut-être son vélo, son équipement, ses vêtements sont trop lourds, cette personne, dans le naturel, ne va jamais gagner la course. Amen? Il faut qu'on atteigne notre poids idéal pour qu'on puisse courir et finir notre course dans la victoire. Et j'aime tellement qu'est-ce que la parole de Dieu dit en Hébreux chapitre 12, verset 1. Encore, on ne sait pas si c'est qui exactement l'auteur d'Hébreux. Il y a quelques-uns qui pensent que c'est l'apôtre Paul, mais on ne fait pas de commentaires là-dessus parce que ce n'est pas indiqué directement dans la Bible. Mais le Saint-Esprit a dit en Hébreux chapitre 12, verset 1, à travers l'écrivain d'Hébreux, « Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. » La Bible est claire que si on veut gagner une course, il faut alléger, amen, les poids. S'il y a des choses qui se sont attachées à nous, imaginez si on voulait faire une course à pied, par exemple. Il y a une personne dans les shorts, les sneaks et un t-shirt qui est bien léger, et une autre personne qui porte les bottes de neige, un manteau, une tuque, et qui a sur son dos un sac à dos qui pèse 100 livres. C'est qui va gagner la course? C'est lui qui est le plus léger, amen. La Bible dit « débarrassez-vous ». C'est une chose que nous avons besoin de faire. Examinez votre cœur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui sont comme un poids, qui sont lourdes, que vous portez avec vous, que vous ne devrez pas porter? Et quand on parle du péché, souvent les personnes pensent tout de suite, « Oh, ça doit parler de l'adultère, la meurtre, les choses de même. » Non, vous savez, l'inquiétude, c'est aussi un péché. N'est-ce pas vrai? Quelle pesanteur de porter avec nous les fardeaux, oh, les soucis, oh, qu'est-ce que je vais faire cette semaine, comment puis-je payer Hydro-Québec, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de ma famille, oh, c'est un poids, un fardeau qu'on emmène avec nous. Mais la Bible est claire, si on garde les poids, les péchés, les soucis, on va jamais gagner. Amen. Débarrassez-vous. Regardez votre voisin, votre voisine et dites débarrassez-vous. C'est sérieux, hein? C'est ridicule. Si on regarderait les Olympiques et on verrait quelqu'un sur la piste prêt à partir une course avec un sac à dos, avec les bottes de cowboy ou quoi que ce soit, on dirait que le gars est fou. Il va jamais gagner de même. Mais regardons-nous, regardons l'Église. Considérons la façon qu'on vit. Est-ce qu'on traîne avec nous les péchés, les soucis, les inquiétudes? Si oui, débarrassons-nous de ces choses et on va avoir une vie beaucoup plus légère. Amen? Ça a beaucoup plus de bon sens, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Donc, atteindre et maintenir votre poids idéal. Numéro 4, augmenter votre énergie et votre performance avec la bonne nourriture. Un gars qui s'entraîne, un gars qui s'est débarrassé des poids inutiles, un gars qui est vraiment discipliné à s'entraîner, mais qui mange mal, ne va pas gagner. Amen. Vous avez besoin de l'énergie, la bonne nourriture spirituelle à tous les jours. Tout le monde dit à tous les jours. Vous ne pouvez pas manger les poutines 7 fois par jour avec les tartes au sucre pour dessert et croire que vous allez être en forme si c'est la seule chose que vous mangez. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça prend une bonne nourriture et ça prend une bonne poutine au moins une fois par année. Et une bonne tarte au sucre aussi. Vive le Québec, hein? Il faut sucrer le bec au moins une fois par année. Mais plus que ça, si vous voulez, une fois par semaine même. Je ne suis pas là pour vous dire comment manger dans le naturel, mais laissez-moi vous dire que si vous mangez mal dans l'esprit, vous ne serez jamais assez fort, vous n'aurez jamais assez d'énergie pour finir la course et pour saisir votre destinée. Vous avez quelque chose à faire ici sur la terre. Et il faut que vous vous débarrassiez de tous les poids, mais aussi il faut que vous mangiez bien. Il faut que vous soyez en santé. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et comme je dis, Lance Armstrong, il a tout un régime qui suit, il mange les choses. Parce qu'il ne mange pas juste pour avoir le plaisir, il mange pour avoir la nutrition et tous les aliments qui vont augmenter son efficacité sur la course. Amen. Et c'est la même chose. Choisissez bien votre nourriture spirituelle. Et c'est pourquoi je vous encourage, on a les livres que nous, disponibles aussi. Si vous ne mangez que le dimanche matin, quand je vous prêche la parole de Dieu, laisse-moi vous dire que vous êtes mal nourri. Un chrétien qui ne mange que le dimanche matin est mal nourri. Vraiment, mon rôle en tant que pasteur, je suis un berger, j'emmène le troupeau au pâturage vert et je dis, voici une bonne place où vous pouvez manger. Servez-vous, mangez, bon appétit. Amen. Et votre job dans la semaine, c'est de peut-être prendre la même direction de pensée, chercher davantage dans votre Bible, méditer les choses, mettre les choses en pratique, et en plus de chercher d'autres enseignements qui sont sains, qui sont vraiment nets et qui sont en ligne avec les autres choses que vous entendez, et de vous nourrir vous-même. Le berger, comme je dis souvent, sa job, c'est pas de grimper par terre et de mettre l'herbe dans la bouche de chaque mouton. Hein? Lui, il dit, voici un bon pâturage, mangez. Et c'est la même chose. Le dimanche matin, on dit, voici une bonne place où on a un peu de temps. On parle de comment saisir votre destinée. Je vous lance le défi de prendre votre propre Bible et de chercher les choses qui parlent de la destinée des hommes et des femmes de Dieu et de vous nourrir spirituellement et vous serez en forme pour finir votre course. Amen. Alléluia. Alléluia. Numéro 5, apprendre à booster votre puissance ou votre vitesse aux besoins. Lance Armstrong dit que si vous allez gagner dans les courses, il faut que vous soyez en contrôle et il faut que vous soyez capable que, aux besoins, si vous avez besoin de faire un sprint ou de booster votre vitesse ou votre puissance, il faut que vous soyez capable de le faire à volonté. J'ai besoin d'un boost d'énergie. Dans l'esprit, c'est la même chose. Combien de vous savez que des fois, on court dans la course chrétienne et tout va bien, mais là, on réalise que si je vais atteindre mon but, il faut que je vais plus vite. Amen. Comment est-ce que vous allez le faire? Vous avez besoin d'être rempli continuellement de l'Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Vous savez que c'est à vous et à moi de décider si on va être rempli de l'Esprit ou un débit de l'Esprit, on dirait. Hein? C'est-à-dire que si on est vide ou si on est rempli, c'est à nous de choisir. Amen. Et je vous dis une chose, vous avez la chose la plus merveilleuse que le Seigneur nous a donnée, c'est la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Et Jude 20 dit, « Mais vous, mes chers amis, baptisez votre vie sur le fondement de votre foi très saint, priez par le Saint-Esprit. » Plus vous êtes capable de prier dans l'Esprit, de prier en autre langue, comme la Bible nous enseigne de faire, plus vous serez capable de booster votre puissance et votre vitesse. Une autre chose que vous pouvez faire pour booster votre puissance, c'est de vous réjouir régulièrement dans la présence de Dieu. La joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Donc, si les choses vont mal, vous commencez à être fatigué, meilleure chose à faire, c'est de dire, Seigneur, je prends la décision de me réjouir dans ta présence. Je me réjouis de qui je suis, de qu'est-ce que j'ai, de ce que je peux faire. Je me réjouis de ma relation avec toi. Prendre une décision de marcher dans la joie. Amen. Alléluia. Numéro 6, développer les techniques. Voici qu'est-ce que Lance dit, qu'il faut développer les techniques qui vous permettront à monter les côtes ou les montagnes avec plus d'efficacité. Il a dit que si une personne va gagner le Tour de France, il faut absolument que la personne soit capable de monter les côtes. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? C'est pas toujours plate, la vie. Des fois, les gens disent, oh, la vie est plate. Mais moi, j'ai découvert que la vie est pleine de montagnes, de côtes. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou est-ce que je suis le seul qui a l'occasion, une fois par année, j'ai un petit défi devant moi? Combien de vous avez eu des défis dans votre vie chrétienne? Les obstacles, les moments où c'était difficile. Peut-être le décès de quelqu'un qui t'était cher. Peut-être un divorce. Peut-être un manque d'emploi. Je ne sais pas, une maladie. Il y a des choses qui viennent. Peut-être c'est juste la persécution. Peut-être c'est les autres personnes qui se moquent de vous. On a toutes sortes de montagnes qui peuvent se présenter devant nous. Et quelqu'un qui va gagner a besoin de savoir comment dealer avec les montagnes. Amen. Des fois, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie chrétienne? On peut parler à notre montagne et on peut dire, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si on le dit avec notre bouche et on le croit dans notre cœur, la montagne va disparaître. comment est-ce que je peux savoir si la montagne est supposée de disparaître ou si je suis supposé de monter la montagne? Bonne question, n'est-ce pas? Parce que si vous êtes confus là-dessus, vous allez perdre la course. Il y a des personnes qui essaient de ôter les montagnes que, dans le fond, ce n'est pas la volonté de Dieu que la montagne soit ôtée. Et il y a d'autres personnes qui essaient de monter les montagnes que ce n'est jamais le plan de Dieu pour eux de monter cette montagne. Ils sont supposés de parler à la montagne devrait disparaître. Comment puis-je savoir la différence? Ce n'est pas compliqué. Tout ce que Dieu a promis, amen, si Dieu t'a donné une promesse, par exemple, de la santé, de la vie éternelle, si je peux trouver une promesse écrite dans la parole de Dieu concernant une certaine chose, je peux être convaincu que c'est la volonté de Dieu. Amen. Par exemple, vous n'êtes jamais supposé de monter, de grimper une montagne de maladie. De dire, oh, je vais juste souffrir avec cette maladie. Oh, Dieu m'a donné cette montagne pour me former, pour m'entraîner. Je serai plus fort une fois avoir monté cette montagne. Non, 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 non. La maladie vient du diable. Amen. La pauvreté, les choses qui sont écrites. La Bible est claire en Galates chapitre 3 que Dieu nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Il y a certaines choses que c'est net, c'est noir et blanc dans la parole de Dieu. Et là, on peut prier une prière de foi et on peut parler à la montagne, on peut croire dans notre cœur et on va faire disparaître le problème. On ne va pas vivre avec. Amen. Mais il y a d'autres choses. La persécution. Quelqu'un vous persécute. Laisse-moi vous dire, malheureusement, on a une promesse dans la parole de Dieu que si on suit le Seigneur, il va nous récompenser ici sur la terre, au centuple, avec les maisons, avec la famille, mais il a dit avec les persécutions. On ne peut pas prier et demander à Dieu de faire ôter la persécution de devant nous. Ça ne marche pas. Paul a essayé. Vous vous souvenez de Paul? Il a demandé 3 fois au Seigneur d'enlever les chars dans la chair. Il y a des gens qui disent que c'était une maladie. Ce n'est pas une maladie. C'était un messager du Satan qui a été envoyé pour souffleter Paul. Et à chaque place où Paul arrivait, il y avait une multitude de personnes qui le persécutaient, qui le jetaient en prison, qui voulaient le battre de verge ou quoi que ce soit. Paul a demandé 3 fois que le Seigneur enlève cette écharpe. Il a dit, ma grâce est suffisante. Il y a certaines choses, certains cas où on se voit face à face avec une montagne et Dieu va dire, je te donne la grâce pour monter le côte et pour vaincre cette montagne. Amen. Je te donne la grâce. Mais il y a d'autres choses où Dieu dit, je te donne la foi et je te donne l'autorité pour parler à cette montagne, pour que cette montagne soit ôtée de devant de toi. Amen. Soyez jamais confondus là-dessus, parce que sinon vous allez perdre la course. Je n'ai pas planifié de parler par ce temps de temps long, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être éclairées là-dessus. Certaines montagnes sont destinées à disparaître, et autres montagnes vont rester, et Dieu va vous donner la grâce pour les monter. La clé, c'est de connaître la volonté de Dieu. Si Dieu vous a donné une promesse de victoire, vous pouvez parler avec foi et faire ôter les choses. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Développez les techniques qui vous permettront de monter les côtes avec efficacité. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Quand est-ce que Dieu nous fait triompher en Jésus? Selon ce verset, de temps en temps ou toujours? Tout le monde le dit fort, toujours. Amen. Alléluia. J'aimerais lire un autre verset en Romains 5, 3, 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Quand on dit affliction, on ne se glorifie pas des afflictions de la maladie et les choses qui font partie de la malédiction de la loi. Ça serait stupide. Mais on se glorifie des afflictions parce qu'on vit dans un monde du péché. Il y a des non-croyants qui, des fois, vont nous persécuter. Là, on peut se réjouir même au milieu de ces genres d'afflictions. Pourquoi? Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Wouh! C'est pas la perte dans l'épreuve. Et vous dites, peut-être vous dites, pourquoi est-ce qu'il crie de même? C'est parce que j'aime Jésus. Et quand je lis ça, vous savez que c'est toujours, tout le monde dit toujours, c'est toujours la volonté de Dieu que vous triomphiez. Dieu ne veut jamais que vous perdiez, il veut toujours que vous gagniez. Toujours. Tout le monde dit toujours. Amen. Et même si vous avez une épreuve, la Bible est claire que nous allons avoir la victoire dans l'épreuve si nous sommes persévérants par la foi. Amen. Amen. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, alléluia, qui nous a été donné. Donc, développer les techniques pour faire face aux montagnes. Et finalement, on va finir là. Améliorer votre performance malgré la température. Lance Armstrong dit que si vous allez gagner le Tour de France ou les courses à vélo, il faut savoir comment pédaler quand il fait beau, quand il pleut, quand il neige, quand il y a de la grêle, quand il y a du vent, quand il fait trop chaud. Il faut que vous soyez capable d'avoir une bonne performance malgré la température. Et c'est une bonne chose, je me suis dit, vous savez, si un homme naturel peut avoir cette révélation de la constance que ça prend pour gagner, à combien plus fort raison est-ce que nous avons besoin de savoir que pour gagner dans la vie chrétienne, il faut être constant, peu importe le climat, peu importe l'atmosphère, peu importe qu'est-ce qui se passe autour de nous, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Il me fait toujours triompher en Jésus-Christ. Quand il fait beau et la vie est belle et tout va bien, je suis plus que vainqueur. Amen. Mais quand les factures arrivent, et quand les persécutions arrivent, quand le trouble arrive dans ma vie, je suis plus que vainqueur en Jésus. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe la température, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Ça, c'est bon, hein? Hallelujah. Parce que vous allez avoir des temps difficiles. Je vous promets que la vie chrétienne, en fait, Lance Armstrong a dit ceci, ce n'est jamais facile de gagner le Tour de France. Il a dit, c'est jamais facile. Même si, cette année, tout le monde savait que c'est lui qui allait gagner, parce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui compare à lui. Ce survivant du cancer, ce monsieur qui a dû s'entraîner malgré la douleur, cette personne qui a dû persévérer malgré les échecs du passé. Maintenant, il est tellement bon que tout le monde sait qu'il va gagner en avance. Mais lui-même, il a dit, il n'est jamais facile de gagner le Tour de France. Tout le monde dit, il n'est jamais facile de gagner dans la vie chrétienne. C'est jamais facile. Mais la victoire est toujours garantie. Amen. On ne peut pas se s'asseoir et dire, ben non, le Seigneur m'a promis la victoire. Oui, il t'a promis la victoire si tu t'entraînes, si tu es discipliné spirituellement, si tu manges bien, si tu es en forme spirituellement, si tu as gardé ton cœur. Oui, tu vas gagner et la victoire est garantie. Amen. Et c'est lui qui va nous aider à nous discipliner. Hein? Je ne parle pas des œuvres de la chair, je parle d'une œuvre de l'esprit, le fruit de l'esprit. Amen. Laisse-moi vous lire quelques versets pour finir. Alléluia. Alléluia. J'aime tellement en 2 Timothée 3:11 qui dit « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tout. » Tout le monde dit « tout. » Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Tout le monde dit « toujours. » Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi est-ce que nous sommes plus que vainqueurs? C'est parce que Jésus a gagné le combat pour nous. Et il nous laisse participer à sa victoire. Donc Dieu ne vous demande pas de faire les choses qui sont impossibles. Dieu nous donne le privilège de participer et de partager la couronne que lui-même il a gagnée. N'est-ce pas bon? N'est-ce pas encourageant? N'est-ce pas encourageant de savoir que dans la vie chrétienne, je peux toujours gagner? Pourquoi? Parce que Jésus a gagné la victoire pour moi. C'est pourquoi c'est un combat de la foi. Ce n'est pas un combat de la chair. C'est Jésus qui a gagné. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses puissantes, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On va fermer là. Est-ce que Tani, tu peux venir au piano? On va juste prier et on va fermer aujourd'hui. Je sais qu'on a passé plus de temps que d'habitude aujourd'hui. Je faillis dire, bon, je vais juste laisser à côté mon message ce matin, mais je me suis dit, non, non, même si on va jusqu'à midi, c'est correct. Amen. Si Jean-François va se pratiquer au moins deux fois par jour, par semaine, pour jusqu'à 6 heures et plus par semaine pour jouer au basket, c'est pas trop pour nous passer même 2 heures à l'église pour se préparer pour la course chrétienne. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Merci, Pasteur. Père, nous te remercions parce que tu nous as donné la victoire déjà. C'est un message d'encouragement. Tu es destiné à gagner. Tu es destiné à remporter le prix. Mais il faut coopérer avec lui. Alléluia, merci Père Céleste. Merci Seigneur Jésus. Père, je prie pour chaque personne ici présente ce matin. Que s'il y a des personnes qui n'ont même pas débuté, peut-être il y a des personnes ici qui ils entendent le message et disent, moi aussi je veux courir. Je veux gagner, je veux remporter le prix. Mais peut-être ils n'ont pas l'assurance d'être sur la bonne piste. Peut-être ils ne sont pas convaincus d'être dans la bonne voie. Avant qu'on fasse autre chose, juste avec les yeux fermés, j'aimerais donner l'occasion. Si vous êtes ici ce matin, vous dites, j'aimerais donner ma vie à Jésus. J'aimerais savoir sans aucun doute que je suis enfant de Dieu, que je suis né de nouveau, que j'ai une place réservée pour moi au ciel. Avec les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux commencer la course chrétienne aujourd'hui. Dans le but de gagner et de remporter le prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Juste lever la main, on va prier pour lui. Peut-être tout le monde ici est déjà dans le royaume de Dieu. Vous avez déjà commencé votre vie chrétienne. On va prendre une décision aujourd'hui de s'entraîner pour la victoire. De faire tout ce qui est nécessaire pour remporter le prix. Alléluia. Examinez votre cœur. Prenez une décision que vous allez gagner. Peut-être que vous avez des difficultés dans votre vie de couple, au travail, avec votre santé, dans vos finances. Prenez une décision que vous allez gagner dans tous ces domaines. Comment? En gagnant avec Jésus. Prenez une décision. Comme Lance Armstrong a dit, je ne serai jamais victime du cancer, je serai un vainqueur du cancer. Publiez ta victoire, même avant de voir la victoire. Avant de voir la couronne, croyez que vous allez l'avoir. Et entraînez-vous, en sachant que le Seigneur va vous donner la force nécessaire pour vous préparer. Il ne nous demande pas de faire les choses par notre propre volonté, ni par notre propre force. Il nous donne la force nécessaire. Je vous encourage à prendre ces versets de la Bible et les méditer cette semaine. Alléluia. Priez avec moi. Père Céleste, me voici en champion. Je prends la décision aujourd'hui de gagner et de remporter le prix. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Tu me fais toujours triompher en Jésus. Merci, Père. Alléluia. On va chanter peut-être un chant juste pour terminer.